Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, même la reprise de l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft qui se donne pour mission de sensibiliser et de former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et puis qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur radio.picassoft.net. Aujourd'hui pour la reprise, j'ai le plaisir d'être avec Stéphane et Talita. Bonjour à vous.
Bonjour Quentin.
Bonjour Quentin.
Et puis aujourd'hui, on va parler donc de science ouverte. Et pour ce faire, eh bien, on a le plaisir de recevoir Célia Gruson-Daniel qui travaille depuis plusieurs années sur la thématique de la science ouverte. Salut Célia.
Bonjour.
Eh bien, je vais passer la main à Talita pour l'interview. Ah, c'est à toi.
Bonjour Célia. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton travail succinctement?
Oui, bien sûr, et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc moi, je suis chercheuse associée au COSTEC, hein, le labo de sciences humaines et sociales de l'Université technologique de Compiègne, où j'ai fait ma thèse sur le sujet de la science ouverte, et je travaille aussi actuellement au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle InnoCube, qui est spécialisé sur les problématiques d'open source, d'open data, et d'Open Science aussi, et je développe les projets de recherche maintenant depuis 2 ans au sein d'InnoCube.
Très bien. Ton site indique que tes recherches, je cite, « questionnent la place des savoirs dans nos sociétés modernes et le rôle des imaginaires technoscientifiques sur leur façonnage ». Qu'est-ce que cet imaginaire technoscientifique pour toi ? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet aspect ?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai pu creuser dans ma thèse. Donc je me suis intéressée au monde donc de la recherche et au mouvement de la science ouverte, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui a commencé en premier lieu par le libre accès aux publications de savoir. Pourquoi ? Parce que dans la recherche, on a cet idéal et cet imaginaire aussi, une représentation d'une recherche qui est ouverte, de scientifiques qui veulent partager une visée de progrès ou d'amélioration. Donc ça, c'est une visée qu'on a souvent en dehors du monde de la recherche académique, donc l'aide, le partage. Mais quand on rentre dans le monde de la recherche académique, on voit que le partage est bien loin d'être le cas, parce qu'il y a différents types de pressions, mais aussi des pressions éditoriales qui font que les savoirs étaient fermés. Donc ce mouvement de l'open est venu finalement réactiver ces représentations et ces imaginaires d'une recherche partagée et qui est en train de prendre de plus en plus de place aujourd'hui pour revenir dans un monde connecté et dans le monde d'Internet et du web à mettre en place ce partage pour tous des savoirs. Voilà pour faire une première partie très simple.
Merci pour ta réponse. Tu es également à l'initiative d'une association qui s'appelle Hack Your Research et qui propose des échanges et questionnements autour de nos façons d'éprouver la recherche. Est-ce que tu peux approfondir un peu pourquoi est-ce que ton initiative a pris la forme d'une association et ne s'est pas exprimée uniquement dans ton métier de chercheuse ?
Alors, cette association, elle a commencé en 2013. Donc avant même que je fasse ma thèse, et elle s'appelait initialement Hack Your PhD. Et c'est une initiative collective, collaborative, où on a été plusieurs, donc jeunes chercheurs, mais des personnes aussi qui faisaient de l'entrepreneuriat, qui se retrouvaient aussi dans les Fab Labs, les hackerspaces, à se dire que aujourd'hui, les pratiques de recherche étaient bien fermées pour l'accès au savoir, aussi bien pour l'accès aux publications scientifiques qui sont encore souvent payantes, mais aussi dans les modalités de la recherche, c'est-à-dire que souvent on utilisait dans la recherche des logiciels propriétaires, alors que de plus en plus des langages de programmation libres tels que Python ou R se développaient. Et donc on s'est regroupés, on était d'accord sur ces constats-là et on a voulu creuser collectivement la place d'une science différente qui serait possible avec ce terme d'open science qui commençait à émerger. Donc on s'est questionné collectivement, on a créé aussi du réseau avec d'autres acteurs qui se posaient la question, notamment beaucoup au départ aux États-Unis, donc ce qui a donné lieu à un voyage à QRP et OHD aux States pour aller à la rencontre des acteurs de l'Open Science. Et ensuite, on a continué avec QRP et OHD, par exemple, avec des ateliers d'apprentissage de la programmation, non pas seulement ouverts aux chercheurs, mais ouverts à tout à chacun, qu'on a fait dans un espace qui s'appelait La Paillasse à Paris, qui était un bio-hackerspace. Et aujourd'hui, bah, sachant qu'on a un peu grandi et qu'on a tous on a continué dans la recherche ou pas, on a transformé l'association Acure PhD en l'association Acure Research pour pouvoir être inclusif et non pas seulement s'adresser aux doctorants. Donc, pourquoi une association? C'était vraiment le format le plus simple pour pouvoir se regrouper collectivement, sachant qu'au début, on était un collectif et qu'on a pris ce statut-là pour pouvoir organiser un peu plus nos actions.
Tu es également enseignante et je dois avouer qu'en tant qu'étudiante, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le sujet. Quelle est la place que tu donnes à l'enseignement dans ton métier et dans ta vie en règle générale?
Alors, pour moi, l'enseignement, c'est majeur. J'enseigne de temps en temps, c'est-à-dire que ce n'est pas la partie principale de mon activité. La partie principale, c'est avec InnoCube. Mais j'aime enseigner, alors souvent dans des diplômes universitaires ou dans les écoles doctorales, pour pouvoir être au contact des jeunes chercheurs ou des étudiants, leur transmettre ce que je comprends de la science ouverte et être aussi dans une approche très pragmatique. C'est-à-dire que les enseignements que je peux donner sont surtout des enseignements de méthodologie où je les aide à pratiquer la science ouverte et par une approche, on va dire, plus STS, d'études des sciences et technologies, je les mène à se questionner sur leur pratique de recherche. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce logiciel-là? Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent ou pas leur recherche? Pourquoi est-ce qu'on devrait ouvrir la recherche à d'autres? Quelles sont les peurs aussi qu'on peut avoir d'ouvrir, par exemple, la science à d'autres publics? Quelles peuvent être les utilisations un peu frauduleuses qui peuvent exister? Donc, je réponds à leurs questions et j'aime aussi créer on va dire des échanges, des débats, et j'apprends beaucoup aussi de leur pratique. Donc c'est ce côté de l'enseignement, on va pas dire magistral, mais plutôt d'échange ouvert que je mets en place, et aussi avec une dimension, on va dire, d'éducation ouverte, d'enseignement ouvert, puisque les ressources que j'ai, j'essaye aussi de les mettre en ligne pour qu'elles soient accessibles à toutes et à tous.
Merci beaucoup Célia pour ta présence et pour tes réponses. Je vais rendre le téléphone à Quentin.
Merci beaucoup Célia de cet échange. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Peut-être sur, si tu veux très rapidement, sur ton activité actuelle chez InnoCube, peut-être sur ce que tu fais aujourd'hui de tout ça.
Déjà, je suis ravie que le sujet de la science ouverte soit abordé aujourd'hui dans votre émission. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui avec InnoCube, c'est rapprocher la science ouverte qui a aussi aujourd'hui est dans un plein boom, on va dire, institutionnel et qui peut être vue aussi dans les mondes de la recherche plus académique comme des injonctions encore supplémentaires à ouvrir, à structurer des données, des publications et du temps qu'on a peu souvent en recherche. Et nous, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de montrer au sein d'InnoCube, c'est revenir aux bases aussi du libre, donc rejoindre les enjeux aussi d'open source, d'utilisation de logiciels libres et open source au sein de la recherche, avoir des infrastructures aussi dans la recherche qui sont mutualisées et qui sont aussi sur la base de logiciels libres et d'open source. Et un autre point qu'on questionne et qu'on travaille avec différents acteurs, c'est la place des communs, c'est-à-dire de considérer les savoirs comme des communs, c'est-à-dire un ensemble de ressources gérées par des communautés, de chercheurs, on va dire, académiques ou non académiques, et on va prendre soin de ces communs ensemble. Donc voilà, on essaye de revenir aux bases aussi des fondements des mouvements de l'open et du libre, et de questionner aussi les liens avec la société civile et les liens entre sciences ouvertes et société. Voilà un peu les différentes activités que je fais au sein d'InnoCube, mais aussi dans d'autres groupes, par exemple le groupe de travail sciences ouvertes et société au sein du centre Internet et société.
Merci beaucoup Célia, il nous aurait fallu de toute façon plus qu'une émission pour faire le tour de toutes tes activités, mais j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se croiser un jour ici dans le studio. Je pense que quel que soit le sujet, tu pourras nous filer un coup de main, donc tu es bienvenue quand tu veux. Et puis on te salue pour cette fois-ci.
Merci beaucoup à vous et j'écoute l'émission avec attention.
Merci à toi, au revoir.
Merci beaucoup Célia. Bon, eh bien, on va pouvoir enchaîner sur la suite de l'émission. Stéphane, justement, tu as donné une conférence il n'y a pas longtemps au campus CNRS de Villejuif sur le sujet de la science ouverte, en particulier en expliquant toute la problématique des droits d'auteur, des licences libres et puis de comment on peut agencer tout ça pour aider à la science ouverte. Et puis en particulier, tu publies toi-même dans une optique de science ouverte sur ton site aswimet.fr. Eh bien écoute, tu veux nous parler un petit peu, pour commencer par la base, de qu'est-ce que le droit d'auteur et qu'est-ce que ça implique pour cette problématique.
Allez, c'est parti Quentin, donc on va refaire en rapide au départ la synthèse de plusieurs autres émissions qu'on a déjà faites. D'ailleurs, on avait aussi parlé de Sciences Ouvertes, je crois que tu faisais partie d'un des deux animateurs magistraux à ce moment-là, Quentin. Mais on va effectivement très vite repasser sur droit d'auteur, licence libre, avant d'arriver un petit peu sur le sujet. Alors c'est parti, le principe du droit d'auteur, c'est que en France et aujourd'hui dans la quasi-totalité du reste du monde, eh bien lorsqu'une personne crée un contenu culturel ou un logiciel, ou on va le voir un article scientifique, eh bien celui-ci est en général protégé par le droit d'auteur. Alors en général, il y a quand même quelques conditions. Il faut que la création soit originale et il faut que la création soit mise en forme. Les idées, par exemple, simplement ne sont pas protégées. Si on a une idée, eh bien il faut la rédiger, l'écrire par exemple. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est l'écrit qui est protégé et non pas l'idée en elle-même. Alors quelque chose qu'on ne sait pas forcément, que tout le monde ne sait pas forcément, eh bien le droit d'auteur protège les contenus dès qu'ils sont créés. Aucune formalité n'est nécessaire. On entend souvent, est-ce que je dois faire un dépôt à l'INPI ou écrire un petit copyright sur ma page pour la protéger? Eh bien en droit français, c'est pas nécessaire. Alors on parle de quel type de contenu, je ne vais pas en faire la liste aujourd'hui, mais on parle de livres de musique, de dessins, de peintures, d'articles scientifiques, donc de logiciels, etc., etc. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, la production scientifique, eh bien, elle est avant tout protégée par le droit d'auteur. On va rentrer trop dans le détail du droit d'auteur, puisque ça a même fait l'objet d'une émission à part entière, mais on peut noter que les droits d'auteur donc sur une œuvre appartiennent en général aux auteurs de l'œuvre. Alors ça pourrait paraître un peu évident, mais par exemple c'est le cas même des salariés. Alors évidemment les droits que possède le salarié peuvent être cédés à son entreprise, par exemple par contrat, mais en général, encore une fois, les gens qui produisent quelque chose, eh bien, sont titulaires de ce qu'ils ont, des droits d'auteur sur ce qu'ils ont produit. Donc, par exemple, c'est le cas des élèves et des étudiants qui produisent des choses dans le cadre de leurs études. Eh bien, ça leur appartient. Ça n'appartient ni à leur professeur, ni à leur établissement. Il y a un certain nombre d'exceptions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pour les journalistes ou certains agents du public, mais les enseignants-chercheurs, eh bien, ne sont pas concernés par ces exceptions, donc ce sont des agents du public, mais qui conservent les droits d'auteur sur leur production. Alors peut-être juste pour conclure cette partie, rappeler également que le droit d'auteur se divise en deux catégories, comme un petit peu tout dans le monde, mais là en particulier donc pour le droit d'auteur, eh bien on a d'un côté le droit moral et de l'autre côté le droit patrimonial. Alors pour faire court, le droit moral c'est que la réutilisation du contenu d'un auteur, eh bien impose à minima de citer cet auteur et de ne pas travestir son œuvre. C'est un droit inaliénable et perpétuel, donc il dure tout le temps et on ne peut pas le céder. Et de l'autre côté, eh bien, on a le droit patrimonial. Lui, en revanche, signifie qu'on a, enfin, on a l'autorisation, la possibilité de réutiliser le contenu de quelqu'un, mais à condition d'avoir établi un contrat avec lui. Donc c'est un droit qui est cessible par contrat, qui comprend par exemple le droit de copier, de représenter publiquement une œuvre. Ce droit est limité dans le temps, même s'il est très long, puisqu'il est maintenu 70 ans après la mort de l'auteur. Bah c'est peut-être pas mal pour une première introduction, Quentin. Est-ce que on passe aux licences libres? On passe directement?
Allez, et ouais, carrément, c'est parti.
Tu enchaînes alors?
Ouais.
Allez, vas-y.
Alors, en particulier, pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de licences libres et pourquoi on en parle beaucoup? Bah parce que, comme tu l'as dit, Stéphane, par défaut, les œuvres sont protégées et il y a énormément de droits qui appartiennent exclusivement à leur auteur. Et c'est notamment des choses qui posent question, on le verra par la suite, pour de la production scientifique qui est financée par de l'argent public, etc. Alors en fait, les licences libres, c'est des contrats qui permettent de hacker, entre guillemets, le droit d'auteur. Donc en fait, une licence libre, c'est tout simplement un contrat qui est proposé par le détenteur d'un droit d'auteur au reste du monde et qui permet à chacun d'utiliser librement le contenu ou le logiciel qui est soumis au droit d'auteur sans avoir besoin de demander d'autorisation préalable. Et c'est là le renversement qu'opèrent les licences libres, puisque dans tous les autres cas, il faut absolument l'autorisation explicite de la personne qui a les droits. Alors en fait, les licences libres, elles ont une origine plutôt informatique, puisque la première licence libre est la licence GPL, hein, qui a été notamment impulsée par Richard Stallman à une époque, la fameuse histoire où elle avait une imprimante qui fonctionnait pas bien, et puis n'ayant pas le code qui permettait d'exécuter le logiciel de l'imprimante, bah, il était incapable de la réparer lui-même, et c'est là qu'on se trouvait l'espèce de première difficulté de ne pas pouvoir avoir la main sur le matériel qu'on est en train d'utiliser, d'être dépendant d'acteurs extérieurs, donc les développeurs de l'imprimante. Donc il a énormément poussé dans la direction d'avoir des codes informatiques qui soient libres, et en particulier par libre, ce qu'il entend, c'est les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, à savoir le droit d'exécuter tout simplement le programme dont on parle, le droit d'étudier le fonctionnement du programme, c'est-à-dire d'avoir accès finalement au code, hein, à la recette de cuisine du logiciel, le droit de redistribuer des copies du programme, donc voilà, pouvoir les passer à mon voisin sans avoir à demander l'autorisation de l'éditeur. Et puis enfin, un droit important, celui de modifier le programme et de pouvoir publier et redistribuer ces modifications-là. Donc cette première licence GPL qui pose ces quatre libertés fondamentales, historiquement, elle s'applique plutôt au logiciel, mais elle a été dérivée plus tard dans des licences qui s'appliquent aux productions de l'esprit de manière générale, qui s'appellent les Creative Commons, qui ont notamment été impulsées par l'activiste Aaron Schwartz au début des années 2000. Et globalement, ces licences, dans la version la plus permissive, la Creative Commons by, donc attribution, reprend toutes les mêmes libertés que la GPL, donc le droit, l'accès ouvert à l'œuvre, la modification, la redistribution. Et puis, dans le reste de la gamme Creative Commons, en fait, on retrouve tout un tas de variations, certaines qui interdisent la modification, certaines qui renforcent sa viralité, c'est-à-dire le fait qu'on a le droit de la modifier, mais il faut la partager dans les mêmes conditions, donc c'est une sorte de contagion du libre, certaines qui interdisent son utilisation commerciale, etc. Donc voilà pour une brève introduction aux licences libres. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Stéphane ou Talita.
Non, écoute, c'était très clair. On peut également citer hein, parmi les fondateurs des Creative Commons, Lawrence Lessig, qui est également qui est un juriste et qui également a un certain nombre de positions intéressantes à suivre dans ce domaine-là. Bon, on a fait un petit peu un point de rappel là, sur droit d'auteur et licence libre pour ceux qui n'avaient pas suivi les émissions précédentes. Puis comme on avait fait une petite pause, ils avaient peut-être le droit d'avoir oublié un petit peu. Alors on va passer au sujet de la science ouverte, mais ce que je propose avant, c'est de repositionner un tout petit peu un principe dit principe de réfutabilité. En effet, Célia nous a bien expliqué qu'il y avait une première raison en fait à l'émergence d'une science ouverte, en quelque sorte une raison presque... enfin naturel, intuitif, c'est-à-dire on l'a vu, hein, le libre accès au savoir, le fait effectivement de favoriser l'aide, le partage, etc. Donc on peut s'imaginer que un des premiers objectifs pour la science ouverte, c'est celui-là. Enfin du coup c'est un objectif fondamental. Mais j'en vois un autre moi qui me paraît très important. Derrière le principe de réfutabilité. Alors d'abord, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que, quand on dit de quelque chose, c'est irréfutable, qu'est-ce que ça vous inspire en général ? Est-ce que vous avez est-ce que ça vous vient, là, si je vous dis, voilà, je vous annonce un truc et je vous dis, mais ça, c'est irréfutable !
Ah, ça m'évoque que très vite, on va pouvoir le réfuter.
Ouais, Talita, mais ce n'est pas une évocation normale, en tout cas au sens de statistiquement normale. Alors...
évidemment qu'on ne peut pas te contredire, Stéphane, tu as toujours raison, tu n'aurais pas ta longueur de journée que c'est irréfutable.
Voilà, merci Quentin. Merci Quentin, je préfère ça. Donc effectivement, en général, quand quelqu'un vous dit « c'est irréfutable », eh bien, ça nous évoque plutôt l'idée de quelque chose qui est sûr, certain, dont effectivement, on ne peut pas mettre en cause la valeur de vérité. Eh bien, en fait, si on remonte au concept de réfutabilité, qui a donc été établi par Karl Popper, eh bien, les choses sont un petit peu différentes. En effet, le principe de réfutabilité en science consiste à considérer que seuls les énoncés que l'on peut réfuter, c'est-à-dire que l'on peut contredire empiriquement, pour lesquels on peut réaliser une expérience, une observation, eh bien, sont de nature scientifique. Donc, en fait, c'est un petit peu différent. Quelque chose qui est irréfutable, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui n'entre pas dans le champ de la science, selon Popper. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des énoncés forcément totalement non dignes d'intérêt, mais en tout cas, ils ne répondent pas à cette contrainte dite de réfutabilité. Donc, dit autrement, le monde se divise encore une fois en deux catégories, eh bien les énoncés réfutables et les énoncés non réfutables. Et donc un énoncé scientifique, eh bien par nature, il doit être réfutable. Alors réfutable, ça veut évidemment pas dire réfuté. S'il est réfuté, ça veut dire qu'on a fait un énoncé et qu'on a prouvé par une observation eh bien qu'il était faux. Mais s'il est réfutable et non réfuté, alors ça veut dire que, eh bien jusqu'à preuve du contraire, il s'avère être vrai. On peut prendre un petit exemple tout de suite. Il y a des énoncés existentiels, par exemple de type « les martiens existent », et bien cet énoncé irréfutable. Personne ne peut me prouver que les martiens n'existent pas. Alors j'ai pris les martiens, encore une fois, à la limite sur les martiens, on pourrait imaginer aujourd'hui qu'on est peut-être en capacité de faire une étude complète de la planète Mars, etc. Bon. Mais si je dis les extraterrestres, en tout cas en général, existent, et bien c'est un énoncé irréfutable. Personne ne peut faire le tour de l'univers pour me prouver qu'il n'existe aucun extraterrestre nulle part. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas. Alors, une fois qu'on a posé ce principe-là, on peut observer quelques points complémentaires. Donc, plus un énoncé réfutable, première propriété, plus un énoncé réfutable a déjà résisté à des tentatives de réfutation, et donc plus il y a, plus il a résisté, je l'ai déjà dit, et donc plus il est solide, on va dire qu'il est corroboré. Donc en fait, ce qui fait la valeur d'un énoncé scientifique, eh bien, c'est pas tant sa formulation que le fait qu'à un moment, il y ait plein de gens qui aient essayé de montrer que c'était pas vrai, qu'ils aient pas réussi. À chaque fois que quelqu'un essaye de triturer un énoncé scientifique et qu'il n'arrive pas à montrer que c'est pas vrai, eh ben, ça le rend en quelque sorte un petit peu plus fort. Alors évidemment, il y a d'autres propriétés. Plus un énoncé est clair et précis, et donc plus il est facile de le réfuter, et donc plus il est intéressant. Parce qu'évidemment, si vous faites un truc, un énoncé un peu obscur, on n'a pas bien les données, on ne sait pas bien quoi vérifier. Donc encore une fois, on ne peut pas le réfuter. Ça veut dire que, notamment, et bien encore une fois, la mise à disposition de l'ensemble des données du contexte qui a permis d'arriver à la conclusion, et bien en quelque sorte, est nécessaire pour faire le travail de réfutation. Du coup, je vous ai déjà donné quelques exemples. Alors, j'ai donné un exemple d'énoncé irréfutable. On peut peut-être donner un exemple, par exemple, d'énoncé réfutable. J'avais oublié de le faire, si, par exemple, je vous dis, la moitié des habitants de la Terre sont des femmes, c'est un énoncé réfutable. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire une expérience, de compter toutes les personnes qui existent sur Terre et de voir s'il y en a effectivement la moitié qui sont des femmes ou non. Je l'ai pas forcément dit, du coup, je reprécise, mais pour qu'un énoncé soit réfutable, il n'est pas forcément nécessaire qu'on ait fait l'expérience pour de vrai. Il suffit qu'on imagine, qu'on voit qu'on est capable de faire cette expérience pour le rendre réfutable. Donc voilà, donc pour conclure et pour resynthétiser ce que je viens de dire, donc les deux points importants, c'est que Eh bien, en fait, pour qu'un énoncé scientifique ait de la valeur selon le principe de réfutabilité, eh bien, il faut qu'il soit énoncé le plus clairement possible avec le plus d'informations qui permettent d'essayer de le contredire. Et du coup, plus on essaye de le contredire, eh bien, plus effectivement, et à chaque fois qu'on n'y arrive pas, eh bien, on renforce cet énoncé. Alors cette introduction, eh bien, elle avait pour but de nous amener au principe de la science ouverte, parce que le lien, eh bien, je pense que vous le voyez, c'est que l'enjeu n'est pas simplement un idéal du partage, de la recherche et du libre accès tel que Célia a pu nous le présenter, qui est encore une fois un enjeu fondamental, mais il y a également derrière un enjeu de réfutabilité. C'est-à-dire que, quelque part, on peut considérer que la science ouverte vient nous amener à consolider les productions scientifiques, justement par leur ouverture, en permettant une plus grande réfutabilité. Bon, alors, on a parlé pas mal de science ouverte, mais du coup, il s'agirait peut-être de rentrer un petit peu dans le détail. Quentin, est-ce que tu veux faire ça, ou est-ce que je reprends mon souffle et je continue?
Non, bah allez Stéphane, c'est parti. Peut-être qu'on parlera effectivement de comment est-ce qu'on peut faire de la science ouverte, mais on va faire le lien avec les licences libres, et puis aussi peut-être insister sur le fait que aujourd'hui, c'est vrai, enfin dans la précédente émission, on avait pas mal expliqué le fait que bah il y avait tout un système un petit peu compliqué où de l'argent public finançait de la recherche qui finalement était privatisée par les éditeurs, et donc ça c'était un des enjeux et un des problèmes majeurs de la fermeture de la science. Mais comme tu l'as dit aujourd'hui, comme tu l'as pas dit, mais on assiste à une espèce de crise de la reproductibilité en science, c'est-à-dire que on lit beaucoup d'études ici et là qu'on n'arrive pas en fait à reproduire, et une étude seule ne vaut pas grand-chose, notamment dans un contexte où on met beaucoup en avant la production scientifique pour justifier des décisions par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la crise écologique. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu majeur de ce côté-là, et c'est pour ça que le simple libre accès, finalement, la simple lecture d'une publication scientifique ne suffit pas. En réalité, il y a aussi un enjeu de permettre l'accès aux données qui ont sous-tendu les résultats des publications scientifiques, et donc en fait être transparent sur toute la chaîne de la production scientifique. Donc c'est bien l'objet de la science ouverte qui, donc, d'une part, permet un accès à tous aux travaux scientifiques, à la fois les publications et les données, et qui permet la réutilisation des travaux scientifiques. Et là, c'est ici qu'interviennent les licences libres. Donc évidemment, on partage ces connaissances donc pour maximiser leurs bénéfices collectifs. Là, c'est un positionnement plutôt utilitariste, au sens où on ne va pas avoir toutes et tous besoin de refaire les mêmes recherches, mais qu'on va pouvoir élaborer sur les recherches des autres. Et puis pour favoriser leur réfutabilité, effectivement, notion extrêmement importante, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent indépendamment sur les mêmes études, et puis qui puissent réutiliser les résultats des autres. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que l'auteur d'une publication scientifique a le pouvoir de libérer ses œuvres, et que ne pas accorder de licence libre aux publications scientifiques qu'on fait, c'est équivalent à ne pas autoriser la réutilisation, et donc à baisser la possibilité de réfutabilité.
Vis-à-vis de ça, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'un auteur a intérêt à ne pas ouvrir ses recherches ?
Vas-y, Quentin, vas-y.
Moi, je dirais que aujourd'hui, un auteur a, enfin, la plupart des scientifiques qui publient auraient envie d'ouvrir leurs recherches. Et en fait, c'est simplement que, au fil des années, le système de revues scientifiques dans lesquelles il faut publier, notamment parce que plus on publie dans des revues prestigieuses, plus on a de chances d'avoir des financements, etc., a conduit à une sorte de privatisation de la publication scientifique, où les éditeurs imposent aux auteurs de publication une licence exclusive et du coup des abonnements payants. Et justement, il y a des grands progrès en matière de droit, je crois, qui sont peut-être en cours ces dernières années. Est-ce que Stéphane, tu veux enchaîner là-dessus, rajouter des choses?
Ouais, parce que effectivement, enfin pour confirmer ce que tu dis, hein, effectivement, autant il y a enfin vraiment là depuis relativement peu de temps, hein, des gens comme Célia et les gens qui ont agi dans ce domaine-là ont vraiment participé à faire évoluer les choses. Mais depuis quelques années, effectivement, il y a un certain nombre de domaine qui se tourne vers les publications vertes. On va re-rentrer un petit peu dans les détails exactement de ce que ça veut dire, mais en deux mots, effectivement, plutôt que de publier dans une revue dont l'accès est payant, voire même très très cher, c'est-à-dire peut coûter plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, eh bien la publication est tout simplement disponible pour tout le monde. On peut la télécharger directement sur Internet et la lire. Donc effectivement, il y a un certain nombre de domaines et aujourd'hui, les chercheurs sont de plus en plus incités à faire ce genre de choses. Il y a des abonnements qui sont annulés au niveau des universités, des laboratoires, donc on volontairement se désabonne d'un certain nombre de publications pour forcer un petit peu les choses. Donc ça, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, Quentin. Alors, peut-être en complément par rapport à ta question, Talita, est-ce que les chercheurs ont intérêt? Bah, donc d'un point de vue scientifique, oui. D'un point de vue professionnel, tu l'as dit, Quentin, c'est pas toujours évident, ils peuvent en être empêchés. Et sans rentrer dans la logique de ceux qui auraient des mauvaises intentions, eh bien, tu l'avais cité aussi, Quentin, mais il y a une question à un moment de priorité d'énergie. C'est-à-dire qu'effectivement, si le temps qu'on va passer à un moment, pas seulement à mettre sa publication en ligne, mais comme le disait Quentin, à mettre des données correctement structurées, correctement documentées, c'est-à-dire qu'on a bien expliqué comment les données sont structurées, ce qu'elles représentent, etc. C'est-à-dire tout ce travail de mise à disposition de l'information en vue que d'autres personnes fassent les expériences dans l'espoir qu'ils viennent montrer que ce qu'on a fait est faux, ben on voit que la démarche intellectuelle n'est pas super évidente, quoi. Donc effectivement, c'est plus facile en quelque sorte eh bien, d'aller publier un truc et de pas trop s'embêter avec cette partie. Donc il faut une pression en quelque sorte sur nos métiers pour qu'on se force à faire ce genre de choses, tout simplement parce que bah, naturellement, on n'a pas forcément envie de passer du temps là-dessus.
Oui, c'est quelque chose qui, apparemment, en biologie, est assez fréquent de, quand on lit un article en biologie, que les protocoles et les détails de reproductibilité de l'expérience soient juste pas donnés parce que l'article fait 20 pages, que l'auteur est passé à une autre expérience et qu'étant donné que aussi sa réputation et son, disons, sa qualité de chercheur est mesurée à son nombre de publications, il va vite passer à autre chose qui rend les expériences impossibles à refaire en laboratoire, même avec l'article.
Ouais, carrément. Alors, effectivement, là, enfin, j'allais dire qu'on digressait, mais en fait, non, pas du tout. On est au cœur du sujet. Je me propose de ressouligner ça et de rebondir sur un autre point que Quentin a cité. Et peut-être ensuite, je redonnerai juste rapidement les points de base de ce qu'on entend, en fait, par science ouverte, même si je pense que c'est assez en pointillé depuis tout à l'heure. Mais Quentin, tu l'as dit, là, effectivement, on l'a vu avec la crise sanitaire. On a la crise environnementale également dans laquelle on est baigné, même si on s'en rend encore un peu moins compte au quotidien parce qu'on n'a pas des masques tout le temps sur le nez, mais enfin voilà, il y a un certain nombre de personnes qui en ressentent aujourd'hui l'importance, et autour de ça il y a vraiment un enjeu de pouvoir avoir un débat froid, un débat encore une fois rationnel, logique, le plus possible autour de ces questions. Et on a bien vu à quel point c'était difficile, en fait, d'avoir ce débat parce qu'il y a le feu de l'action, parce qu'il y a des intérêts croisés, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour ça. Mais du coup, il est vraiment important que le monde scientifique, eh bien, soit capable de maintenir ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire encore une fois produire des informations sous des formes réfutables, faire des expériences et donc soit dans une logique de effectivement publier des choses, retravailler les publications des autres, refaire les expériences, refaire les calculs, etc., etc. Et du coup, il y a aussi, et pour moi c'est aussi un peu le sens de ce qu'on a raconté aujourd'hui, peut-être un renversement que nous en tant que citoyens et population on est vis-à-vis des chercheurs, c'est-à-dire de pas considérer justement que quand un chercheur s'est trompé, eh bien il a fait une connerie, il faut lui jeter des pierres. Au contraire, quand un chercheur s'est trompé, ça veut dire qu'il a produit à un moment quelque chose, alors on va supposer effectivement qu'il l'a produit honnêtement, il a fait le travail pour ça, et il a rendu son travail suffisamment transparent pour qu'un autre chercheur ou une autre chercheuse vienne tenter de corroborer et se rendre compte qu'il y a une erreur. Et du coup, en se rendant compte qu'il y a une erreur, ça fait avancer les choses. Donc en fait, un certain temps long pour faire les expériences, les refaire, la possibilité de se tromper, voire même l'erreur en quelque sorte, elle fait partie du processus, c'est quand même assez fondamental. Et on le voit, alors je pense là, j'ai des exemples dans le domaine environnemental, je ne prendrai pas sur la crise sanitaire, c'est un peu plus, voilà, ça va nous emmener dans des choses un peu plus chaude à discuter, mais sur la crise environnementale, par exemple, je sais que le Shift Project a fait un moment, a produit des données autour du numérique environnemental, et il y a eu des contestations de ça. Il y en a toujours d'ailleurs. Alors encore une fois, on peut conclure que du coup, The Shift Project, ils n'arrêtent pas de se planter et qu'il faut arrêter de les écouter, ou au contraire, on peut conclure que The Shift Project, ils font un boulot de fond, ils publient leurs données, ils publient leurs infos. Du coup, ça permet à d'autres personnes de retravailler et éventuellement, effectivement, de se rendre compte qu'à certains moments, ils se sont trompés. Mais ils ne se trompent pas tout le temps. Et à chaque fois qu'ils se sont trompés, encore une fois, ils peuvent repartir là-dessus. Donc c'est vraiment fondamental, je pense, d'accepter ce phénomène d'accepter que la science, c'est pas juste sortir des vérités éternelles, et au contraire, c'est un processus. Alors du coup, peut-être juste pour revenir sur notre sujet, et puis redéfinir vraiment du coup ce qu'on entend par notion de science ouverte, le lien avec tout ça me paraît est direct, mais c'est donc d'abord permettre un accès à tous aux travaux, donc que l'ensemble des publications et les données qui sont produites dans un contexte scientifique soient disponibles pour le monde entier, et de permettre également la réutilisation de l'ensemble de ces travaux scientifiques grâce à des licences libres. Donc une logique d'accès ouvert et une logique même de réutilisation. Et donc voilà, on le voit, pour peut-être conclure en quelque sorte, mais un, on va maximiser le bénéfice collectif, et deux, on va favoriser la réfutabilité des données. Et voilà, donc peut-être juste pour reconclure sur la conclusion, mais donc ajouter qu'un accès gratuit qui permet de la libre consultation du contenu, donc c'est déjà bien, c'est déjà ce qui est en train de beaucoup se passer aujourd'hui dans un certain nombre de domaines, pas tous encore, il y a encore des pans de certains domaines qu'il faut autour desquels il faut travailler, mais associer une licence libre à ces publications, en quelque sorte c'est encore mieux, parce que ça permet la réutilisation du travail. Je pense qu'on a fait un point assez général sur la question de la science ouverte. J'espère que grâce à cela, tout le monde en a compris les principes et puis surtout les enjeux. Alors concrètement, si vous êtes un chercheur ou un citoyen ou un enseignant ou un élève ou un étudiant et que vous voulez en savoir plus sur la science ouverte, que vous voulez savoir comment libérer vos propres travaux scientifiques ou avoir accès à des travaux scientifiques libres et que vous avez un petit peu de mal à rentrer dans le domaine, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont informés de ces questions-là, autour de ces questions-là. On avait eu par exemple la bibliothèque de l'UTC, mais certainement que dans la plupart des bibliothèques, des universités, il y a plein d'acteurs qui sont au courant de tout ça, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis si vous n'avez pas trouvé d'autres pistes, souvenez-vous que il y a aujourd'hui un réseau de 98, si je ne dis pas de bêtises, chatons qui existent donc en France. Donc 98 associations, entreprises, organismes qui s'occupent des questions de culture libre. Alors là-dedans, tout le monde n'est pas forcément spécialisé en sciences ouvertes, mais en général, il y aura une compétence et en tout cas une appétence pour le domaine. Donc rapprochez-vous d'un chaton chez vous si vous le souhaitez et vous aurez certainement de l'aide. Et puis si chez vous, c'est à côté de Compiègne, il y a évidemment Picasoft qui est là pour répondre à toutes vos questions. La page de pub est faite, Talita.
Merci Stéphane.
Bon, on va peut-être conclure. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'émission en podcast peu après sa diffusion sur radio.picasoft.net. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine. Ciao à tous!